Géopolitique,
environnement,
politique.
L'atelier Sciences Po du lycée Ambroise Brugère
vous décrypte une actualité brûlante avec Radio Campus
93.3.
Entre jeux de pouvoir, intérêts nationaux et tensions internationales, le monde ne dort jamais.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue.
Vous l'avez entendu, géopolitique ou encore politique, voilà des bons sujets à traiter, surtout à travers des faits, des chiffres et de l'histoire. Dans ce podcast, nous plongerons au cœur de certains enjeux qui rythment la planète ou encore les hostilités qui durent depuis un bon moment.
Tout d'abord, intéressons-nous aux relations internationales entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Le passé sanglant des deux Corées. Je m'appelle Shin, en classe de première générale au lycée Ambroise Brugère, et voici Neema qui est avec moi en première générale. Nous allons vous présenter les deux Corées. Nous aborderons leur passé, leur évolution et leurs relations. Aujourd'hui, la Corée du Sud ou République de Corée du Sud est connue grâce à son soft power avec la K-food, les K-dramas, la K-pop ou même la K-mode, et se place comme la 13e puissance économique mondiale en 2024 et 6e exportatrice de marchandises. Tandis que la Corée du Nord, de son véritable nom, République populaire démocratique de Corée du Nord, a plutôt opté pour le hard power militaire et un développement de programmes nucléaires balistiques. Pourquoi les deux Corées se sont séparées en deux et quelles sont leurs relations aujourd'hui? Et quels sont leurs enjeux politiques, géopolitiques et économiques? Tout d'abord, nous parlerons de leur passé commun.
La Corée a été colonisée par le Japon de 1910 à 1945. Il leur impose une politique d'assimilation et exploite économiquement le pays. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée est divisée en deux zones d'occupation. Le nord est occupé par l'URSS et le sud par les USA. Kim Il-sung installe un régime communiste tandis que Syng Myung-ri installe un gouvernement pro-occidental.
Le nord envahit le sud en 1950. C'est la guerre. Le nord tente d'unifier le pays sous un régime communiste. L'ONU soutient le Sud et la Chine soutient le Nord. L'armistice est signé en 1953, aucun traité de paix en vue pour les deux territoires. Le territoire est divisé par la 38e parallèle appelée zone démilitarisée. Cette guerre a causé environ 3 millions de morts.
Après la guerre, des incidents ont lieu, comme en 1958, où un navire américain est capturé par la Corée du Nord. Cela cause la mort d'un membre de l'équipage. Le commando nord-coréen tente d'attaquer Séoul la même année, causant 30 morts nord-coréens et 90 sud-coréens. En 2010, le Nord cause un bombardement sur l'île de Yeonpyeong et fait 4 morts sud-coréens. Nous allons donc enchaîner avec l'évolution divergente des deux Corées.
Après la guerre, la Corée du Nord devient un état totalitaire et dynastique sous Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un, sur l'idéologie de Juche. La RPDC signe un traité bilatéral avec la Chine et l'URSS. Économiquement, le Nord est loin face au Sud. Il a même subi une famine de 54 à 55 et une en 1990. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais il adopte un programme nucléaire en 1980 sous Kim Il-sung avec le lancement de l'extraction d'uranium. Aujourd'hui, le Nord continue son armement nucléaire malgré les sanctions internationales de l'ONU. Ce refus montre à quel point le pays a gagné en menace. Mais pourquoi est-elle une puissance militaire ? Tout ce que fait la RPDC, c'est pour contrer les USA. Posséder l'arme nucléaire a pour but de se protéger face à une potentielle menace américaine. Par exemple, elle lance le 31 mai 2023 un satellite espion, Kolisma 1, pour contrer l'impérialisme américain. Mais celui-ci finit par s'écraser dans l'océan Pacifique. Le Nord privilégie le financement de son armée. Il y consacre 15% de son PIB. Le pays a plus d'1,2 million de soldats actifs et plus de 500 000 réservistes. C'est l'une des plus importantes forces militaires au monde. Pyongyang a aussi développé des drones de surveillance et d'attaque qui, en 2022, ont survolé la Corée du Sud. 4 d'entre eux ont atteint une île proche de la frontière et une 5e a survolé Séoul. L'armée sud-coréenne n'a pas réussi à abattre les drones. On peut aussi parler du développement de leurs drones sous-marins qui peuvent transporter une ogive nucléaire. Enfin, c'est une menace pour la cybersécurité du monde. En 2017, l'attaque de ransomware WannaCry 2.0 a compromis les réseaux d'aviation, de chemins de fer et de soins de santé en Europe, en Asie et aux États-Unis.
Le Sud, lui, a évolué économiquement ainsi qu'en termes d'industrialisation, d'urbanisation et d'éducation. À partir des années 80, le pays adopte un régime démocratique, car avant il y avait une dictature militaire. la Corée du Sud a réussi à construire un soft power mondialement connu grâce à plusieurs stratégies. Après la crise économique asiatique de 1997, le gouvernement sud-coréen décide d'investir dans la culture pour relancer l'économie et renforcer l'image du pays à l'international en développant son soft power. Le soft power qui est la capacité d'un pays à influencer les autres par la culture, les valeurs ou la diplomatie sans utiliser la force. Cette vague coréenne ou Hallyu est un mouvement qui se base sur la musique, les séries et les avancées technologiques. D'abord la musique avec la montée de la K-pop et des groupes mondialement connus comme AOA, Big Bang, Girl Generation et maintenant Blackpink et BTS. Ensuite les séries K-drama qui sont très populaires et sont diffusées sur des plateformes comme Netflix ou des plateformes de streaming en ligne comme Viki ou Vordrama. En 2020, le film Parasite du producteur Bong Joon-ho a reçu un Oscar et la sortie de Squid Game a fait grimper la cote des K-dramas. Enfin, la Corée du Sud est connue pour ses avancées technologiques très importantes avec les grandes sociétés comme Samsung dans le domaine électronique qui est un chaebol, conglomérat coréen et Hyundai dans le domaine automobile. La diplomatie sud-coréenne joue aussi un rôle important. Elle soutient la diffusion et la culture coréenne à l'étranger à travers des instituts et des événements internationaux. La Corée du Sud est perçue comme un pays en plein essor et influent qui a su combiner culture, innovation et stratégie politique pour s'imposer sur la scène mondiale. Mais une réunification est-elle possible ?
Si Kim Dae-jung l'a rêvé avec sa politique dite du rayon de soleil il y a 20 ans, cette perspective semble aujourd'hui improbable. Il y a bien eu des initiatives industrielles comme la zone industrielle de Kaesong en 2004 qui devaient réunir sur un projet commun travailleur nord et sud-coréen. Mais celles-ci se sont rapidement arrêtées et ont finalement eu peu d'impact sur les relations des deux Corées qui n'ont eu de cesse de se détériorer.
Ainsi, en 2023, la Corée du Sud qualifie le Nord d'ennemi. La situation semble atteindre son paroxysme en mai 2024, quand la Corée du Nord lance des ballons remplis de déchets, d'excréments, de plastique ou encore de mégots vers la Corée du Sud. Ce geste qui peut nous paraître comme puéril est en fait une réaction aux ballons envoyés par la Corée du Sud, qui étaient eux remplis de séries, des clés USB ou des billets de banque, dans le but de montrer le monde réel au Nord-Coréen.
Cette escalade de tensions vire ainsi au grotesque et continue de séparer les familles, rendant chaque jour plus incertaine une éventuelle réunification.
En parlant de tensions, en route pour un tout autre continent, l'Amérique. Les États-Unis captent l'attention du monde et continuent de façonner des débats sociaux et politiques à travers une autre forme de confrontation, plus économique cette fois-ci, le protectionnisme.
Donald Trump,
la fin de la mondialisation.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle partie de notre podcast. Aujourd'hui, nous sommes Thomas,
Yanis,
Servan.
Nous allons explorer le protectionnisme sous la présidence de Donald Trump. Personnalité controversée, Donald Trump a marqué la politique américaine par ses positions fermes sur le commerce international. Son approche protectionniste a redéfini les relations commerciales des États-Unis avec le reste du monde, suscitant de nombreuses réactions et débats.
Commençons par définir le protectionnisme. Il s'agit d'une politique économique visant à protéger les industries nationales de la concurrence étrangère en imposant des barrières aux importations, telles que des droits de douane élevés, des quotas ou des réglementations strictes. L'objectif est de favoriser les entreprises locales en rendant les produits étrangers plus chers ou moins accessibles. Historiquement, les États-Unis ont alterné entre des périodes de libre-échange et de protectionnisme, ce dernier étant une composante récurrente de leur politique commerciale depuis l'époque de George Washington.
Dès son premier mandat en 2017, Donald Trump a adopté une politique commerciale résolument protectionniste. En 2018, il a imposé des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium importé, affectant notamment le Canada, le Mexique et l'Union européenne. Même si celles-ci ont été annulées par l'Union européenne et le Canada en 2021. Ces mesures, souvent des droits de douane supplémentaires, ont entraîné des représailles comme des droits de douane supplémentaires de la part des partenaires commerciaux des États-Unis, déclenchant une série de tensions commerciales.
Réélu en 2024, Donald Trump a intensifié ses mesures protectionnistes. En février 2025, il a annoncé l'imposition de droits de douane réciproques sur les importations en provenance de plusieurs pays, y compris le Canada, le Mexique et la Chine. Au mépris des règles de l'Organisation mondiale du commerce, les droits de douane réciproques signifient imposer les droits de douane aux pays qui en imposent, comme Donald Trump l'a dit. S'ils nous font payer, on les fait payer. Ces actions ont semé le chaos politique et financier, provoquant des réactions immédiates de la part des pays concernés.
Les mesures protectionnistes de Donald Trump visent à protéger les industries nationales en rendant les produits étrangers plus coûteux. Cependant, ces politiques peuvent entraîner une augmentation des coûts pour les entreprises américaines qui dépendent de matières premières importées, telles que l'acier et l'aluminium, ce qui peut se traduire par des hausses de prix pour les consommateurs. De plus, les partenaires commerciaux des États-Unis ont mis en place des mesures de rétorsion affectant les exportations américaines et menaçant des emplois dans les secteurs exportateurs. Ces tensions commerciales ont également contribué à une volatilité accrue sur les marchés financiers.
À l'échelle mondiale, les politiques protectionnistes américaines ont des répercussions significatives. L'augmentation des droits de douane américains sur les produits chinois, par exemple, risque de réorienter la surcapacité chinoise vers l'Europe, ce qui pourrait affecter les industries européennes. En d'autres mots, les produits qui étaient à la destination du marché américain vont déferler sur l'Europe pour vider les stocks chinois et cela risque d'affecter les industries européennes. De plus, ces tensions commerciales pourraient entraîner une perturbation des flux commerciaux internationaux, affectant la croissance économique mondiale et augmentant l'incertitude sur les marchés.
Les mesures de Donald Trump ont suscité de vives réactions à l'international. L'Union européenne, par exemple, a dû envisager des réponses ciblées face au protectionnisme agressif des États-Unis, afin de protéger ses propres industries tout en évitant une escalade des tensions commerciales. De nombreux pays cherchent à défendre leurs intérêts économiques tout en préservant le système commercial multilatéral. Pour expliquer la stratégie des pays qui cherchent à défendre leurs intérêts ainsi que le commerce multilatéral, nous pouvons nous pencher sur le difficile sujet des droits de douane qui ne doivent être ni trop élevés pour garantir la mondialisation et l'entente entre pays, et aussi un petit peu important pour préserver l'économie du pays.
En conclusion, le protectionnisme de Donald Trump a profondément influencé les relations commerciales internationales. Si ces mesures visent à protéger l'économie américaine, elles entraînent des tensions avec les partenaires commerciaux et ont des répercussions sur l'économie mondiale. L'avenir nous dira si ces politiques atteindront leurs objectifs ou si elles conduiront à une escalade des conflits commerciaux. Encore aujourd'hui, des changements s'opèrent, comme la suspension des récentes surtaxes pour tous les pays, sauf la Chine, qui reste à 125% de droits de douane.
Nous allons rester sur place pendant un petit moment encore. L'idée de protectionnisme peut faire écho à certains principes venant d'une certaine philosophie que l'on nomme le conservatisme et qui, nous allons le voir, valorise certaines valeurs traditionnelles.
Trump, un discours traditionnel et conservateur qui transforme la société américaine.
Bonjour à tous. Nous sommes
Anissa,
Awa,
Rayana.
Et nous allons vous parler du conservatisme aux États-Unis. Restaurer la vérité et la raison de l'histoire américaine. Voilà un décret fraîchement adopté par Donald Trump et qui a de quoi nous donner des sueurs froides. Pour commencer, la tradition est un ensemble de connaissances et de pratiques qui sont transmises de génération en génération, que ce soit de manière orale ou bien par l'imitation de coutumes ou de comportements. Il s'agit donc d'un héritage. Le conservatisme est donc un courant de pensée qui prône la préservation ou le retour d'une situation passée. C'est bien de la société patriarcale dont il s'agit. Domination de l'homme sur la femme, travail domestique pour ces dames et le vrai travail pour les hommes. Quelques tabous, l'avortement, l'euthanasie, LGBTQIA+, le réchauffement climatique, voire l'égalité filles-garçons. Le tout sur fond de valeurs religieuses radicales.
La diffusion du conservatisme aux États-Unis s'est faite à travers plusieurs canaux puissants, notamment les médias, les églises évangéliques et le monde politique. Dès les années 1980, les idées conservatrices ont gagné en popularité, en particulier dans le sud du Midwest. Les chaînes de télévision comme Fox News, ainsi que les radios et les réseaux sociaux, ont largement relayé ces valeurs, mettant en avant la famille traditionnelle, la liberté économique et la religion. De nombreux pasteurs influents ont aussi joué un rôle central en appelant leurs fidèles à défendre des positions conservatrices sur des sujets comme l'avortement ou le mariage. Ou encore aujourd'hui, le conservatisme continue de se propager à travers ses réseaux, influençant fortement une partie de la société américaine. Ces dernières années, le conservatisme s'est diffusé de manière encore plus marquée aux États-Unis, notamment grâce aux réseaux sociaux, aux chaînes d'information comme Fox News et certaines figures politiques influentes. Des personnalités comme Donald Trump ont fortement contribué à renforcer cette idéologie en mettant en avant des thèmes comme l'identité nationale, la sécurité ou encore les méfiances envers les élites. Le mouvement conservateur a aussi gagné du terrain dans les écoles, les conseils locaux et les gouvernements d'État comme la Floride ou le Texas. De plus, certaines plateformes en ligne comme YouTube ou X, anciennement Twitter, ont permis à des influenceurs conservateurs de toucher un public jeune et large. Cette diffusion rapide montre que le conservatisme, loin de disparaître, continue de se renouveler et de s'adapter aux enjeux actuels de la société américaine.
Les conséquences actuelles sur la société américaine. Depuis l'élection de Donald Trump le 5 novembre 2024, ces valeurs conservatrices sont devenues une réalité dans différentes sphères de la société américaine. Parlons tout d'abord des minorités et des femmes. En juin 2022, la Cour suprême a annulé un arrêt fédéral garantissant le droit d'avorter sur tout le territoire américain. Depuis, l'accès à l'avortement est devenu très inégalitaire. 14 États interdisent désormais le recours à l'avortement et plusieurs autres le restreignent. Les droits des minorités sont aussi bafoués, certains États comme l'Iowa révoquant les règles de protection des personnes transgenres, niant jusqu'à la notion même de genre. Environnement maintenant. Le réchauffement climatique est une fake news et les petites avancées de l'accord de Paris sont de l'histoire ancienne. Recourir à l'extraction du gaz de schiste semble donc une opportunité à ne pas rater. Parlons enfin de l'école et de la recherche qui se trouvent au cœur d'une véritable politique de censure. Des titres sont supprimés des bibliothèques scolaires comme le très subversif Journal d'Anne Frank. Des mots sont supprimés des publications scientifiques comme Femmes, Climat, Genre, Minorité. Et les politiques de discrimination positive à l'université sont stoppées alors qu'elles avaient permis à plusieurs générations de réussir à intégrer le supérieur. Nous espérons qu'à l'issue de ce podcast, vous ne serez pas trop déprimés. Nous vous remercions en tout cas de votre écoute.
Parlons géopolitique encore, en nous concentrant sur le lithium.
La ruée vers les ressources rares, ces métaux qui divisent.
Bonjour à toutes et à tous.
C'est Salma,
Elena
et Jeanne.
Et aujourd'hui, on va vous parler des terres rares, plus précisément des enjeux et la gestion de ces ressources très en vogue chez les grandes puissances mondiales et leur nécessité dans cette période de transition écologique en Occident. On pourrait se sentir un peu hors de portée et détaché de ce thème, et pourtant nous verrons que ces enjeux nous impactent bien plus que ce que l'on pense.
J'entends beaucoup parler de ressources rares sans vraiment savoir ce que c'est. Avant d'expliquer pourquoi elles sont si convoitées, pourquoi ne pas définir ce qu'on appelle une ressource rare ?
Les terres rares, ce sont 17 éléments chimiques présents sur le tableau de Mendeleïev. On les appelle rares, mais en réalité, elles sont plutôt abondantes dans la croûte terrestre. C'est un peu comme si on appelait rare une pièce de monnaie qu'on a juste un peu du mal à récupérer sous le canapé. Le problème, c'est qu'elles sont souvent trop dispersées pour être exploitées de manière rentable. D'ailleurs, le lithium, souvent associé à ces ressources, n'est pas une terre rare, mais un métal stratégique et abondant. Sa concentration le rend compliqué à extraire.
Fun fact, le lithium a été découvert en 1817. Il est le plus léger des métaux et celui qui stocke le mieux l'électricité. Dans la nature, il est dispersé dans la roche ou de la saumure, un mélange d'eau et de sel. Le Chili, l'Argentine et la Bolivie constituent le triangle de lithium. Le Chili dispose des plus grosses réserves connues du globe, plus de 9 millions de tonnes en 2021, soit environ 40% des réserves mondiales, devant l'Australie, 10%.
En fait, les terres rares représentent une partie d'un sujet bien plus large qu'on appelle les métaux stratégiques. Ces éléments ont alors des propriétés magnétiques, phosphorescentes et catalytiques qui les rendent indispensables pour des technologies de pointe comme les fibres optiques, les lasers et les systèmes de guidage de missiles. Leur extraction est un processus complexe et polluant, souvent impliquant des produits chimiques agressifs, ce qui entraîne une pollution de l'eau, de l'air et du sol.
Ces métaux sont essentiels dans de nombreuses industries modernes. On les retrouve dans nos téléphones, tablettes, véhicules électriques, énergies renouvelables et même dans le secteur militaire. Comme le dit Guillaume Pitron, chercheur et auteur de la guerre des métaux rares, il n'y a pas de transition énergétique numérique ni d'industrie de défense sans ces métaux rares, qu'il faut bien aller chercher quelque part.
Ok, mais pourquoi les grandes puissances veulent-elles les contrôler ?
Tout d'abord, les ressources rares ont une importance majeure dans l'aspect économique et technologique. Les ressources rares sont indispensables à la transition énergétique et aux technologies modernes. Prenons exemple du lithium pour les batteries et de l'uranium pour le nucléaire. Leur contrôle permet d'assurer un avantage économique et technologique. Elles sont donc stratégiques pour l'avenir. De plus, ce sont des ressources comparées au pétrole. Le lithium, comme le pétrole, est devenu essentiel à l'économie mondiale, d'où le surnom de pétrole blanc. Les grandes puissances veulent éviter de dépendre d'autres pays pour ces ressources critiques, ce qui provoque une envie de domination des grandes puissances. Elles cherchent à investir dans les pays producteurs, Chili, Argentine, Mexique ou le Pérou, afin d'exercer une influence sur ces régions et sécuriser leur approvisionnement. Cette mainmise permet de limiter la concurrence et d'imposer leurs conditions sur le marché mondial. En résumé, les grandes puissances veulent contrôler les ressources rares pour garantir leur suprématie économique, technologique et géopolitique dans le monde où ces matières deviennent de plus en plus stratégiques.
Ah, je comprends mieux. Mais alors, qui possède ces ressources et qui en dépend ?
Ce sont l'Australie et la Bolivie. Les vastes étendues désertiques d'Australie occidentale, après avoir été des décennies durant le terrain de prédilection des chercheurs d'or, de nickel et de fer, sont devenues le plus grand champ de bataille des mineurs de lithium. L'Australie occidentale fournit déjà près de la moitié du lithium brut mondial. D'ici à 2028, la valeur des exportations de lithium devrait dépasser celle du charbon, l'un des piliers de l'économie australienne depuis des décennies. De plus, le lithium semble être la clé de l'avenir économique de la Bolivie. Sous le salar de Uyuni, ce désert de sel de plus de 10 000 km² gît l'un des plus grands gisements de lithium du monde, environ 17% du total planétaire. En exploitant ces réserves, le gouvernement de la Bolivie entrevoit un moyen de sortir de la misère. 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Cependant, son exploitation pourrait entraîner des conséquences écologiques graves.
Mais du coup, je me demande comment ces ressources influencent-elles la politique mondiale ?
La Commission européenne qualifie désormais non moins de 30 métaux différents de critiques, en raison de leur importance économique couplée au risque de leur tarissement. À l'heure de la transition énergétique et de la montée en puissance de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, la question de leur disponibilité se pose de manière urgente. Elle conduit les États-Unis, comme l'Union européenne, à prendre des mesures visant à se prémunir des aléas des marchés. Par exemple, le lithium est le premier dans le classement des ressources minérales les plus demandées selon le degré d'engagement environnemental. Et d'ici 2040, le lithium pourrait être multiplié par 12,8 selon le scénario de SPS et par 41,9 selon le scénario de SDS, suivi par le graphite et le cobalt. En somme, le lithium n'est pas seulement un enjeu géopolitique, mais aussi un enjeu environnemental.
Puisque pour lutter contre le changement climatique, on a besoin de technologies comme les éoliennes, les panneaux solaires ou les batteries des véhicules électriques, il faut ces métaux en grande quantité. Cela crée une compétition à l'échelle mondiale pour sécuriser ses ressources. La Chine a donc pour atout la production et le raffinage de ces métaux, ce qui lui confère un pouvoir géopolitique important. Le problème, c'est que la production est concentrée dans quelques pays, créant des vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement et des tensions internationales. Cependant, malgré cette compétition, des coopérations sont possibles entre pays, comme celle des États-Unis et de la Chine.
Ok, donc maintenant on a vu le passé, le présent, mais maintenant tu pourrais me dire qu'est-ce que l'avenir de ces ressources ?
Alors l'avenir de ces ressources n'est pas très prometteur. On pourrait faire face à des problèmes d'épuisement de ces ressources qui nous obligent à les recycler ou même trouver des alternatives.
C'est-à-dire qu'avec la transition énergétique et l'essor des véhicules électriques, la demande de lithium va exploser. L'Argentine prévoit de tripler sa production d'ici 2030 et les prévisions indiquent que ces ressources seront de plus en plus sollicitées. Un impact environnemental préoccupant. En effet, l'extraction du lithium peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement, notamment en affectant les nappes phréatiques et les sols. Certains experts alertent sur les risques d'une exploitation massive non contrôlée.
Parlons maintenant de cette concurrence géopolitique. Les grandes puissances, notamment les États-Unis et la Chine, cherchent à sécuriser leur accès aux réserves stratégiques. L'exemple de Tesla d'Elon Musk, mentionné dans le texte, montre que les multinationales exercent une pression pour obtenir ces ressources. En conclusion, l'avenir du lithium et des autres ressources rares dépendra de la capacité des pays producteurs à équilibrer exploitation, transformation locale et préservation de l'environnement, tout en naviguant dans un contexte de forte pression internationale.
Par conséquent, les terres rares sont indispensables pour de nombreuses technologies modernes, mais leur extraction pose des défis environnementaux et géopolitiques, impactant inévitablement la vie des populations.
Certains profiteront d'un mode de vie plus éco-responsable, tandis qu'ailleurs, d'autres se battront pour suspendre des démarches en leur défaveur, comme le projet d'extraction de lithium par l'entreprise Rio Tinto, en Serbie, nocif pour la population locale. Merci pour votre écoute, c'était Elena,
Salma
et Jeanne.
Eh bien, nous arrivons à la fin de ce parcours dans lequel nous avons exploré des thèmes en apparence disparates, mais en réalité profondément liés à des dynamiques de pouvoir et de préservation.
De l'hostilité entre les deux Corées, reflet de tensions géopolitiques, nous avons glissé vers les États-Unis avec le protectionnisme, une stratégie défensive qui se soucie de sauvegarder les intérêts nationaux.
Ce sujet nous a naturellement menés au conservatisme, qui partage cette volonté de préserver des traditions, des valeurs ou des ressources.
Et enfin, nous avons connecté cela au lithium, une source stratégique au cœur des transformations modernes, soulevant des débats entre innovation et modernisation.
Ces passerelles montrent combien les enjeux internationaux, économiques et idéologiques sont intimement liés et peuvent influencer nos choix présents et orienter notre avenir.
géopolitique,
environnement,
politique.
L'atelier Sciences Po du lycée Ambroise Brugère
vous décrypte une actualité brûlante.
Avec Radio Campus
93.3.